Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Suite et fin déjà d'une semaine de philosophie du sport dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après la boxe, la course à pied, la grimpe et le rugby, c'est de surf que nous allons parler, autrement dit, de vagues à l'âme. Car il n'est pas nécessaire, figurez-vous, d'être le fils de Dieu pour marcher sur l'eau. Un tel miracle, rappelle Frédéric Schifter dans sa petite philosophie du surf, est d'abord le privilège du surfeur qui, sur le modèle grec de l'homme excellent, parvient à la maîtrise de lui-même en acceptant l'omnipotence des lois de l'océan. Bonjour Frédéric Schifter. Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour Frédéric Schifter, vous êtes là. Pardon, c'est difficile de savoir si vous m'avez entendu, puisque vous n'êtes pas avec nous, mais en direct, en duplex de Bayonne. Frédéric Schifter, c'est toujours une joie, ne vous en déplaise, de vous accueillir au nouveau chemin de la connaissance. Ça l'est d'autant plus qu'avec votre petite philosophie du surf, vous offrez à vos lecteurs le seul peut-être de vos livres qui ne vante pas les vertus du cafard. Est-ce que ça veut dire que le surf vous met en joie ?
Mais bien sûr. Bien sûr, le surf met en joie le surf met en joie parce que, comme toute joie, cela vient après une certaine attente. Le surfeur est l'homme de l'attente. Il scrute l'horizon, il étudie la météo et il est sensible aux dépressions. Mais je ne reviens pas vers le cafard, là. Je parle des dépressions météorologiques.
On avait bien compris.
Et donc, voilà. Et quand la houle arrive, alors, effectivement, c'est un événement. Si vous voulez, un peu, le surfeur est un peu semblable au héros du désert des Tartares. Il fait le guet. Et lorsque la houle arrive, alors ce n'est pas une armée ennemie. C'est une armée d'ondes amies. Et cela le met en joie.
Ça n'est plus la question qui meurt ici, c'est la question qui vive.
Oui, exactement, qui vive. Et à ce moment-là, effectivement, c'est une effervescence, c'est une fébrilité. Et tout est préparé pour accueillir ces amis qui viennent de loin.
La vague est fille d'un océan tourmenté par une dépression. Elle naît loin des hommes. Mais il arrive que certains, ayant pris le large de leurs semblables, assistent à l'événement. Ils le payent cher. Dès que la vague émerge, le vent l'élève jusqu'à hauteur des nuages, puis il la précipite sur les navires pour les décapiter, les trancher, les saigner. Il l'entraîne à devenir une onde de choc, un élément de la nature destructeur et indifférent. Les navigateurs ne s'y trompent pas. Quand une vague s'abat sur eux, ils parlent d'une lame. L'angoisse du naufrage aiguise le sens de la métaphore. Dans votre livre, Frédéric Schifter, votre petite philosophie du surf, vous dites à un moment que si elle ne rencontre aucun obstacle, une vague géante conserve indéfiniment sa taille et avance à une vitesse constante. Elle glisse, dites-vous, durant des jours et des jours au-dessus des abîmes et parfois par endroits racle le gris des brumes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Alors, ça veut dire...
La vague en gratte-ciel.
Oui, il peut surgir comme ça de l'océan. Des vagues, ce que les navigateurs appellent des vagues pirates, des vagues surgissent tout à fait inopinément, alors que le ciel est bleu, alors que la mer est calme, mais parce qu'il y a eu un séisme, sous-marin, tout à coup une montagne d'eau s'élève. C'est un peu le tsunami dont parlent les Japonais, évidemment, qui sont coutumiers de ce genre de catastrophe, hélas. Et effectivement, si cette vague ne rencontre aucun obstacle, elle peut garder sa taille indéfiniment. Alors après, effectivement, si elle rencontre des îles, des massifs de coraux, etc., à ce moment-là, évidemment, elle change de forme. Mais si rien ne l'arrête, si rien ne vient interrompre sa course, alors elle arrive effectivement sous la forme d'énormes vagues sur les rivages. Et c'est par exemple ce que surfent les surfeurs de grosses vagues des îles Hawaï ou de Tahiti.
La vague est donc un élément littéralement, au sens propre, spinoziste. On reste dans la joie ici, hein, puisque chez Spinoza, la mort est toujours l'effet d'une rencontre extérieure. Nous sommes toute positivité et ce qui relève du négatif en nous nous apparaît sous l'effet d'une rencontre. Nous ne portons rien en nous. Qui soit de l'ordre du négatif, ça n'est qu'une illusion de notre ignorance, ainsi de la vague qui ne s'épuise que par le choc ou par la rencontre.
Mmh. C'est exact. Mais elle finit par mourir, hein, de toute façon. Elle finit par mourir et c'est d'ailleurs comme cela que voyaient les Polynésiens, c'est comme ça qu'ils la voyaient, la vague. Quand à la suite d'une dépression... Les vagues venaient s'échouer comme ça sur l'archipel des îles Hawaï. Les Polynésiens aussitôt arrêtaient toute occupation et se mettaient aussitôt à sortir leurs planches qu'ils avaient taillées dans des séquoias et partaient à la rencontre des vagues, voyant que celles-ci allaient finir leur course. Au fond, c'était des divinités océanes dont il fallait accompagner jusqu'au dernier souffle, si vous voulez. Et alors, c'est James Cook qui en parle, le navigateur. C'est à lui que nous devons le premier récit d'une session de surf, pour ainsi dire, quand il vit en 1778 les Polynésiens se diriger vers le large en ramant sur leur planche de séquoia, et de là, une fois au large, revenir vers le bord debout sur leur planche. Alors lui, il y a vu une sorte d'activité ludique, alors que pour les Polynésiens, c'était un rituel funéraire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'accompagner jusqu'à leur dernier souffle, effectivement, ces divinités océanes, dans le but de les honorer, quoi, tout simplement.
Citons le James Cook, car vous le faites dans votre petite philosophie du surf, Frédéric Schifter. Citons-le, sitôt qu'une houle puissante hors du commun arrive, élevant les vagues à leur plus grande taille, les gens d'ici saisissent l'occasion pour se livrer à leur divertissement. Une vingtaine d'hommes, chacun muni d'une longue planche étroite, arrondie aux deux extrémités, s'éloignent ensemble du rivage. Ils plongent sous la première vague qu'ils rencontrent, se laissent balloter, refont surface juste derrière et progressent vers le large. La deuxième vague se déroule comme la première. La grande difficulté consiste à choisir le bon moment pour plonger dessous. Car en cas d'échec, les hommes sont pris dans l'écume, propulsés violemment vers la rive. Ils doivent faire preuve d'une grande habileté pour ne pas être écrasés contre les rochers. Dès qu'ils ont atteint, après maints efforts répétés, les eaux calmes au-delà des vagues, ils s'allongent sur leurs planches et préparent leur retour. Comme les vagues arrivent par série et que la troisième passe pour être normalement la plus grosse et la plus haute, ils s'avisent de se placer à son sommet afin qu'elle les ramène à vive allure vers le rivage. Rien n'a changé depuis le temps où James Cook parlait.
Rien n'a changé, sauf les planches. Alors, bon, c'est un peu schématique. Alors, évidemment, le caractère sacré de ce jeu a disparu. Quoique, il faudrait regarder de plus près en ce qui concerne les surfeurs de grosses vagues. Parce que bon, il y a les surfeurs de très grosses vagues. Hein, ils sont quasiment spécialisés dans ce sport. Et puis bon, il y a les surfeurs amateurs, des champions, mais qui ne surfent pas forcément de grosses vagues. Bon, cela dit, donc au départ, effectivement, il s'agit d'un rituel, donc d'un rituel sacré. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, c'est peut-être la technique. Et c'est peut-être cette technique qui est en partie modifiée grâce à la technologie. On ne surfe plus les vagues aujourd'hui comme on les surfait évidemment du temps de James Cook, en raison même de la modification apportée aux planches.
En même temps, bien sûr, les planches ont changé, mais le principe est le même. Avant d'être tué, racontez-vous, en 1779 par les indigènes des îles Sandwich, donc James Cook écrivait ce que j'ai lu tout à l'heure dans son journal, et dans ce texte, il parle quand même du bon moment, de choisir le bon moment. Or, de ce point de vue, le surf est exactement ce qu'on appelle une discipline aristotélicienne, c'est-à-dire une école du bon moment, de la bonne vague.
Voilà, aristotélicienne, et j'ose dire même sophistique, puisque les sophistes grecs enseignaient déjà à saisir le moment opportun, le bon moment. C'est ce qu'ils appelaient aussi, si mes souvenirs sont bons, la prudence. La prudence étant une façon d'agir dans l'ignorance, mais pas par ignorance. Alors ça, c'est très intéressant, parce que, et ramené à l'exemple du surf, c'est-à-dire que quand vous êtes là, sur le point de prendre une vague, au fond, vous ne savez pas, vous êtes dans l'ignorance, vous ne savez pas du tout comment l'élément va se présenter vraiment, comment la vague va-t-elle casser, quelle est sa vitesse réelle, etc. Eh bien, vous êtes dans l'ignorance, mais en même temps, vous agissez non pas par ignorance, parce qu'il y a, à supposer que vous êtes un bon surfeur, évidemment, ce qui n'est hélas pas mon cas, mais quand je vois ça là sur la côte basque, on est frappé de voir que le surfeur, même quand il ne sait pas, sait y faire. Bon, et ce savoir y faire, ce savoir-faire, cette techné du surfeur relève effectivement de la prudence, c'est-à-dire c'est une sorte d'expérience accumulée de gestes et qui se joint à une sorte, non pas une intuition, parce que je n'aime pas beaucoup le terme, mais disons une vue qui est nourrie par l'expérience.
On pourrait parler d'une connaissance du singulier.
Une connaissance du singulier qui ressemblerait à une vue générale, mais cette vue générale n'étant jamais que l'addition d'expériences singulières. Voilà, et qui permet justement d'agir de manière très efficace, très adaptée au moment où il faut prendre la vague. Moi, je me rappelle quand j'étais débutant, si vous me permettez cette confession.
Allez-y.
Quand j'étais tout débutant, je suis toujours un éternel débutant, mais enfin, qu'importe. Je me rendais compte que quand je voulais prendre une vague, finalement, je n'y arrivais pas. Pourquoi je n'y arrivais pas? Alors que tout le monde partait, alors que tous les bons surfeurs partaient. Eh bien, c'était dû au fait, tout simplement, que j'étais extrêmement mal placé. Mais je n'étais pas si loin de ceux qui étaient partis. J'étais peut-être à quelques dizaines de centimètres, 10 centimètres, 15 centimètres. Mais bon, je n'étais pas au bon endroit. Et ça, celui qui était parti le savait. Moi, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais, si vous voulez. Et alors, qu'est-ce qu'on sait exactement? C'est difficile à dire, parce qu'on n'a pas un mètre sur soi, on n'a rien, si vous voulez, pour arpenter la vague. Tout ça est de l'ordre du...
C'est mesurer la vague.
Oui, mesurer la vague. Hein. On n'a rien. Enfin, c'est une sorte de science empirique qui se rassemble au moment même où on a le besoin d'agir. Et alors, c'est ce que les surfeurs aussi appellent la lecture de la mer. Il faut savoir lire la mer. Alors, évidemment, le navigateur pourrait dire aussi la même chose, sauf que là, il s'agit de prendre une vague. C'est-à-dire que l'élément est là, il s'agit de ne pas le rater.
Lire la mer, Frédéric Schifter, à ceci près que la mer, comme la nature, du point de vue du surfeur, n'est pas, comme dit Galilée, écrite en langage mathématique, mais en langage poétique, c'est-à-dire en langage créateur.
Exactement. Exactement. Car... Quand une série de vagues arrive, il ne faut pas s'attendre à une série au sens de la sérialité sartrienne, hein, c'est-à-dire une sorte de nombre de vagues construites...
Qui autoriserait les prédictions exactes.
Voilà, elles ne sortent pas toutes du même moule, si vous voulez. Elles ont à peu près la même grosseur, à peu près, elles ont la même vitesse, ça c'est sûr. Bon, mais un élément fera que l'une de ces vagues dans la série sera la meilleure, une autre sera la moins bonne, etc. Alors pourtant, elles font partie de la même série. Il y a 5-6 vagues à la série à peu près, mais vous pouvez y aller. Vous pouvez être sûr que les bons surfeurs prendront la bonne vague et les mauvais ne réussiront pas parce que c'était pas le bon moment. Et donc, à chaque fois, si vous voulez, c'est un élément aléatoire. C'est un élément
ou alors les mauvais s'élèveront par hasard, alors et que les bons s'élèveront par prudence.
Voilà, c'est mon cas. Moi, quand je prends une vague, c'est toujours un peu par hasard, parce qu'il y a tout un tas de concours de circonstances qui font que les bons n'étaient pas là à ce moment-là, et ils étaient ailleurs, ils étaient un peu distraits, ou alors par gentillesse, ils m'ont laissé la vague, si vous voulez. Mais alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, quand bien même l'élément est aléatoire, quand bien même les conditions sont toujours comme ça, imprévisibles, il n'en demeure pas moins vrai que le bon surfeur se trompe rarement. Ce qui fait dire qu'il y a quand même chez lui un savoir, qui n'est pas un savoir infaillible, mais qui est un savoir en tout cas d'une efficacité redoutable.
Un savoir qui n'est pas corrélé à une vérité.
Exactement.
Et de sorte qu'on peut ne pas se tromper sans savoir ce qu'est le vrai. Je vous cite Frédéric Schifter. En déclarant que l'homme est la mesure de toute chose, Protagoras rappelle que nous ne pouvons appréhender la réalité que dans une perspective sensible, empirique et tactique. L'espace qui nous entoure consiste en une infinité d'apparences et, le temps qui nous emporte, en une série de mauvais moments à passer, ponctués de chances à ne pas laisser filer. Vivre, aurait pu dire Protagoras, c'est surfer sur les occasions. Le surfeur approuverait. Prendre une belle vague, c'est saisir une occasion. L'un enseigne qu'un succès dépend de l'attention qu'on porte aux circonstances afin de juger de leur caractère favorable et, avant tout le monde, de profiter du meilleur instant pour agir. L'autre explique qu'une glisse réussie suppose, selon ses termes, une bonne lecture de la manière dont les vagues apparaissent pour bien se placer et prendre sans hésiter la plus belle. Tous deux cultivent le sens de l'opportunité, la sagacité, sens parfois d'une telle acuité qu'il permet de dire qu'agir dans l'ignorance n'est pas agir par ignorance. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hair. Frédéric Schifter est notre invité aujourd'hui dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à la philosophie du sport. C'est la fin de cette semaine, nous sommes vendredi en votre compagnie, Frédéric Schifter. Vous êtes l'auteur d'une petite philosophie du surf parue chez Milan dans l'excellente collection Pause Philo, qui met à la portée de tous les concepts les plus ardus en les incarnant précisément dans une activité ludique ou sportive. Alors Frédéric Schifter, on a parlé ensemble du sens de la vague, qui supposait d'ailleurs qu'on ne présume pas un sens au monde lui-même, ni une intention à la nature, mais qu'on sache peut-être être attentif à l'aléatoire d'une vague. C'est dire que dans une philosophie du surf, si le surf est un vecteur de philosophie, non pas l'objet de la philosophie, mais une façon de penser, il ne s'agit plus ici, à la façon de Descartes, de se servir de l'intelligence pour se rendre comme maître et possesseur de la nature, mais d'être plutôt du côté d'Héraclite, par exemple, selon qui, dans ce monde, rien ne demeure, et pour qui seul importe de faire corps avec la vague.
Exactement. Le surfeur est un héraclitéen. Hein. Il est dans le mouvant, dans l'ondoyant, dans l'aléatoire, comme vous l'avez rappelé. Et effectivement, son rapport à la nature ne peut pas être un rapport de domination, un rapport de maîtrise, ni même un rapport de, comme nous venons de le dire aussi, de conceptualisation. Le savoir qu'il a sur elle n'est qu'un savoir empirique qu'il affine à mesure qu'il l'expérimente. Et c'est bien en quoi son savoir est en devenir, si j'ose dire. Et quand je dis en devenir, non pas qu'il évolue vers une... Alors il se perfectionne, effectivement, mais il n'apprend pas plus, si vous voulez, simplement ce... Alors, il n'apprend pas plus intellectuellement. Je crois que la connaissance du surfeur est une connaissance qui passe dans le corps. Il y a une mémoire musculaire, il y a des automatismes dans les placements de jambes, il y a une force acquise, il y a un équilibre qui est mieux saisi, etc. Et alors c'est à la fois la connaissance d'un élément, mais cette connaissance se transmet quasiment, je dirais, alors encore une fois, naturellement dans le corps. Et c'est pour ça que finalement, le surfeur est un connaissant corporel, enfin je ne sais pas comment dire, ou un savant charnel de l'élément.
On retrouve ici, ici ce qu'on disait lundi dernier avec Denis Moreau et Pascal Taranto sur le fait que toute philosophie du sport impose non plus de dissocier le corps et l'esprit, hein, ça c'est les fameuses impasses que Descartes a léguées à sa postérité le soin de résoudre, mais il ne s'agit plus donc de penser la dissociation, en tout cas le rapport entre l'esprit et le corps en termes de dissociation, mais au contraire de penser une incorporation de l'esprit et une spiritualisation du corps. Le surf est typiquement à la charnière, c'est finalement le sport fait office de glande pinéale, ce carrefour où l'esprit et le corps sont censés s'amalgamer chez Descartes.
Exactement, oui. Moi je laisserai de côté cette histoire de la glande pinéale dont Spinoza d'ailleurs s'est moqué et a raison, je pense. Je dirais que...
Ça fait plaisir, Frédéric Schifter, de vous entendre dire du bien de Spinoza.
Oui, alors,
on en reparlera hors antenne, oui, c'est ça. Allez-y.
Une fois n'est pas coutume, mais je crois que ce qui fait la jonction, effectivement, de l'âme et du corps, enfin bon, moi, je n'ai jamais pensé qu'elles étaient disjointes, mais peut-être qu'il faut faire certaines expériences pour penser que ces deux substances, comme dirait Spinoza encore, sont jointes. Et alors, moi, enfin, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que, par exemple, la fatigue, parce que la fatigue, c'est une expérience extraordinaire, finalement. Hein, au début, nous avions commencé par dire que le surf met en joie, mais le surf fatigue aussi. Et c'est très étonnant de voir à quel point la fatigue du surfeur est une fatigue joyeuse. Comment dire, le corps est contenté de sa lassitude. Alors, je ne sais pas si cela se produit dans d'autres disciplines sportives, certainement, peut-être. Enfin, moi, quand je vois les tennismen après avoir disputé pendant des heures et des heures des parties, je les vois dans un piteux état. En revanche, quand vous voyez sortir un surfeur de l'eau, après avoir passé deux heures comme ça, bon, à se battre, si j'ose dire, enfin, il ne se bat pas, disons, il se meut dans l'élément. Eh bien, il est heureux.
Est-ce que ça ne vient pas tout simplement du fait qu'il se fatigue dans l'eau et que par conséquent, il n'a pas de courbature ? Pardon d'être terre à terre, hein,
Mais courbature, ça, les courbatures viennent après, certainement. Enfin, bon, mais il y a c'est un état d'euphorie. Il a été... Alors, j'aimerais pouvoir dire deux mots sur l'euphorie.
Allez-y.
Parce que je pense que c'est... Le surf, je crois que c'est ça. Hein. L'euphoria, pour les Grecs, c'est le fait d'être... transporté très 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 agréablement, hein, c'est ça. C'est le préfixe, c'est ce qui désigne le bon, l'agréable. Et foreign, ça veut dire être porté. Et je pense que alors, donc le surfeur est porté. Par son habileté, sa technique, etc. Il se transporte sur l'élément très bien, mais moi, je parle toujours du bon surfeur. Hein. Je ne parle pas du surfeur qui tombe tout le temps. Bon, celui-là, ce n'est pas un surfeur, d'ailleurs. Bon. Mais quand il sort de l'eau, il se porte encore très bien. C'est-à-dire qu'il est toujours dans le... Quelque chose se poursuit, se prolonge, qui est de... Et c'est cette euphorie. Et en revanche, on voit à quel point le surfeur est triste lorsqu'il n'y a plus de vagues, lorsque c'est le calme plat. Et à ce moment-là, il épouse... Comment dire, sa psychologie épouse la météorologie. Finalement, sa météorologie intime est à l'image de la météorologie naturelle, quoi, enfin externe. Enfin, voilà.
Donc le surf est un art orphique, hein, une façon de trouver sa place dans une cosmologie. Qu'on lui trouve un sens
c'est
ou
exact,
non, c'est une façon
exact.
De trouver sa place plus qu'un art prométhéen de conquête ou de triomphe.
C'est exact. Mais c'est pour ça que c'est une des formes les plus comment dire, les plus modernes, bon, alors, il faudrait rentrer dans le détail, mais de l'hédonisme ambiant, si vous voulez, comme tous les sports de glisse, d'ailleurs. Bon, mais enfin, là encore, je crois que le surf dans les sports de glisse occupe une place tout à fait particulière, parce que le ski ou le snowboard, bon, on suppose que vous êtes sur un élément qui reste là, je veux dire, la montagne, c'est un élément fixe. Alors, je sais bien qu'il y a des variations climatiques qui font que les conditions sont toujours aléatoires aussi, mais en attendant, on est là sur le plancher des vaches, si vous voulez. Tandis qu'avec le surf, nous sommes sur un élément mouvant. Et donc, encore une fois, ce rapport à la nature, on épouse même jusqu'au caprice de la nature, si vous voulez.
Et Naalu, dites-vous...
C'est une expérience un peu mystique.
Vous parlez hawaïen, Frédéric Gifter, oui. Hein, vous citez Naalu.
Oui, Naalu.
Ce qui signifie en hawaïen le fait de faire corps avec la vague en glissant avec elle. Je vous crois sur parole.
Hein, oui, mais c'est ça.
Mes connaissances en hawaïen s'arrêtent là. Vous dites faire corps avec la vague en glissant avec elle. Donc, l'enjeu est ici donc de s'assimiler, littéralement.
Oui, de s'assimiler, mais toujours à la manière humaine. C'est-à-dire que l'humain n'est jamais totalement en fusion avec cela même avec quoi il voudrait fusionner. Il est malgré tout toujours extérieur. Et tant mieux, d'ailleurs. Sinon, ça signifierait la noyade, purement et simplement. Donc, il s'agit d'adapter une gestuelle, enfin, une discipline du corps à un élément de telle sorte que on goûte à la force de cet élément, à la puissance de la vague, sans pour autant se laisser dominer par cet élément. C'est une dialectique très très subtile, hein. C'est très compliqué.
En anglais, le mot « surf » désigne l'état houleux de la mer ou encore le ressac. C'est pourquoi, pour préciser le fait de surfer, utilise-t-on aussi l'expression « surf riding » qui signifie « chevaucher les vagues ». Malgré tout, ce terme reste inadéquat pour évoquer de manière sensible ce qu'on appelle la glisse, « the free ride ». Car la glisse décrit moins l'action de conduire, même avec adresse et légèreté une monture, qu'elle ne suggère le jeu délicat d'effleurer un élément. En cela, le genre de surf qui colle pour certains au plus près à la notion de glisse est celui que l'on appelle le longboard. Pratiqué, comme son nom l'indique, sur de longues et larges planches pouvant mesurer près de 3 mètres, s'il n'autorise pas le surfeur à s'aventurer sur une houle de haute taille, il lui laisse toute latitude pour improviser sur le mode du ralenti cinématographique, des figures déliées et gracieuses. Comme le montre Joël Tudor, le flegme en personne et en action, qui, les 10 doigts de pied en appui sur le nez de sa planche, semble se laisser porter distraitement sur un tapis d'eau roulant invisible. Frédéric Gifter est notre invité pour clore cette semaine sur la philosophie du surf dans les nouveaux chemins de la connaissance. À l'occasion. C'est un livre qui est paru il y a longtemps, mais c'est pas grave, on n'est pas dans l'actualité éditoriale au nouveau chemin. D'une petite philosophie du surf, donc paru chez Milan dans la collection Pause Philo. Frédéric Gifter, vous parlez de Joël Tudor, hein, le flegme en personne et en action, hein, qui semble se laisser porter distraitement sur son tapis d'eau roulant invisible. Le surf est une façon de marcher sur l'eau. Est-ce que vous en parleriez comme d'une religion?
À l'heure actuelle,
j'ai parlé de joie avec vous, maintenant je parle de religion. Quand on vous connaît un peu, les deux sont étonnants. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question.
Alors, par métaphore, peut-être, et encore. Mais en tout cas, il est vrai que dans le registre religieux, métaphorique du religieux, il est un fait que quand on regarde et quand on admire, parce que ce sont des gens qui forcent l'admiration, les grands surfeurs sur ces vagues, et notamment Joël Tudor, qui est un longboardeur. Alors, on a l'impression d'assister à un miracle. Hein. Il y a une véritable thaumaturgie, là, parce que c'est tellement contre nature, hein, de voir des hommes marcher comme ça, au loin, comme ça, sur l'eau, ou glisser sur l'eau. sur des planches. Alors là, on parlait du longboard, qui est une longue planche. On pourrait considérer que là, après tout, l'équilibre, ce serait une fausse croyance, hein, que l'équilibre est mieux assuré. Mais quand on les voit sur des planches qui ressemblent de plus en plus à des cure-dents, enfin, là, on se demande comment ils font pour tenir ce rythme, à cette vitesse, etc. Bien. Alors, c'est vrai que c'est de l'ordre, ça paraît être un peu du miracle. Mais en fait, encore une fois, je crois que tout ce qui est comme ça appelle une démystification. Mais en même temps, cette démystification, ce n'est pas dans le but de ne pas admirer. Hein. Je crois que on voit que c'est un exploit. Voilà. Moi, j'aime bien le surf parce que je crois que ça renoue un peu. Je ne parlerai pas de religion, je parlerai de mythologie. Je crois que le surfeur renoue un peu enfin, avec la figure du héros. Quel que soit le type de vague hein, qu'il surfe, hein, c'est un peu le héros qui affronte un élément qui le dompte, avec lequel il a des relations complices. Et qui, justement, par sa manière de faire, par son style, par un je ne sais quoi, comme disait Jean Kelevitch, parfois presque rien, tout de suite, il entre dans la légende, si vous voulez. Il entre dans la légende, on parle de lui, on vante des exploits, parfois l'exploit est imaginaire, mais qu'importe. Et on a affaire à une mythologie. Alors, bon, je sais bien que tout sport à ses héros, que tout sport à ses légendes, etc. Mais il y a...
Mais en l'occurrence, ici, la condition de l'héroïsme, c'est une certaine forme d'humilité.
Ah oui, précisément, parce qu'encore une fois, on est devant un élément qui, de toute manière, est plus fort que vous. Il est plus fort que vous, et même, parfois, il se moque de vous. Je n'en veux pour preuve que les multiples compétitions de surf qui ont été prévues et annulées en raison du manque total de vagues, de vent, enfin, de toutes les conditions requises pour qu'il y ait... Donc, si vous voulez, les héros sont là, mais l'adversaire n'est pas là. Bon, il y a une sorte de pied de nez, comme ça, lancé devant les candidats à l'exploit. Mais qu'importe, parce que le surfeur est beau joueur aussi. Hein, il s'est composé aussi avec les caprices de la nature. Et ma foi, quand la vague n'est pas au rendez-vous, bah, il fait autre chose, je ne sais quoi, mais il attend.
Mais
il
vous dites, Frédéric Schiffer, de l'élément marin, qu'il est plus fort que nous. Est-ce qu'on ne reste pas là encore dans un comparatisme qui peut-être n'a pas lieu d'être? Je m'explique. Est-ce qu'en somme, l'élément du surfeur, c'est-à-dire la mer, mieux encore que d'être plus fort que le surfeur, n'est pas tout simplement autre que le surfeur? Est-ce que le surfeur ne fait pas l'expérience de l'inhumanité du monde, qui n'est pas entendre au sens moral ou péjoratif ici du terme, mais de la non-humanité du monde? C'est-à-dire, en somme, est-ce que le surfeur n'est pas, à la différence du cartésien ou du prométhéen ou de celui dont l'âme est un paysage choisi, de l'homme romantique par exemple, est-ce que le surfeur n'est pas un aventurier véritable dans la mesure où il assume l'étrangeté du monde, son silence, son indifférence, le fait qu'il en fasse partie et qu'à ce titre, il n'est en un sens rien de commun avec lui?
Alors voilà, mais c'est très ambigu, parce que vous venez de dire le mot, c'est-à-dire que le surfeur sait qu'il est dans un élément qui est totalement indifférent à son existence. Qu'il soit là, ou qu'il disparaisse corps et bien dans cet élément, l'élément qui est totalement inanimé, qui n'est qu'un pur élément matériel, n'en a cure, évidemment. Et le surfeur le sait, cela. Mais c'est justement, et là je reviendrai peut-être à une catégorie esthétique qu'avait souligné Kant. Décidément, je rends hommage à des philosophes pour lesquels je n'ai pas beaucoup de tendresse d'habitude. Mais
allez-y, c'est un régal pour l'auditeur, allez-y.
C'est le sublime, n'est-ce pas? Le sublime, c'est ce sentiment esthétique qui naît lorsque on est confronté devant l'immensité de la nature et que l'on mesure la petitesse qui est la nôtre, ou qui est la sienne, pour finir par les Français. Donc, je contemple l'immensité de la nature, je me perçois si petit dans cette immensité, mais en même temps, je me dis que j'ai le privilège de savoir cela. J'ai le privilège de il n'y a qu'à moi qu'est donnée cette chance de comprendre cela. Et cette espèce d'exaltation où se mêle le frisson un peu de la frayeur, je crois que ça, le surfeur l'éprouve. C'est pourquoi il revient à l'eau. C'est pourquoi il repart toujours vers l'océan. cet élément si indifférent, il s'y attache, lui, en tout cas.
Mais c'est aussi la raison pour laquelle, j'en reviens quand même à l'idée d'étrangeté qui se trouve dans la nature. Hein. La mer n'est pas écrite en langage mathématique. De la même façon que pour le surfeur, il s'agit de se fier à l'instinct plutôt qu'au calcul du mathématicien ou à l'art de la prédiction. Le fait de se fier à l'instinct, d'être dans l'intuition philosophique ou dans l'intuition corporelle du bon moment, du moment où se relever sur sa planche, etc., d'avoir le sens de l'occasion, cela va avec la déconstruction de toute mathématisation du monde au profit d'une poétisation du monde. Hein, on en a parlé tout à l'heure, Frédéric Schifter. La condition de cette poétisation du monde, c'est précisément l'immanence. C'est l'absence de sens, c'est l'absence de transcendance. C'est le refus de saisir le monde en vérité, que ce soit une vérité scientifique ou bien une vérité théologique.
Oui. Alors ça, je ne sais pas si le surfeur effectue cette démarche intellectuelle.
Oh, il n'a pas besoin de l'effectuer. Il fait une expérience qui la résume voilà, avec plus d'efficacité qu'une reconstruction.
Et je crois que justement cet engouement ou cette passion, comme on dit aujourd'hui, pour ce sport vient certainement de cette expérience-là, du fait de vivre cette expérience-là, qui est, comme vous le dites, une expérience de l'immédiateté, c'est-à-dire d'un rapport immédiat à un élément, peut-être qui est médiatisé donc par une technique de glisse, etc. Mais à la faveur de quoi on fait l'expérience effectivement d'une insignifiance totale d'abord de la présence de l'élément et de sa présence dans cet élément. On est là, on ne sait pourquoi, mais on y est là par jeu. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, on est là par jeu, et le jeu, c'est ce qu'il y a à la fois de plus sérieux et de plus insignifiant. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. Le surfeur n'est pas seulement un homme d'action, mais un corps mobile, inséré dans un mouvement dont il n'est pas l'origine ou la cause. Bergson définit le comique, plus exactement le burlesque, comme du mécanique plaqué sur du vivant. En cela, le surf est le contraire même d'une comédie, puisque les figures que le surfeur enchaîne sur une onde mue par une force aveugle donnent à voir une volonté vivante qui se pose et s'impose sur un mécanisme de la nature. En réalité, quand il atteint un seuil élevé de virtuosité, le surf est un spectacle de danse, à meilleur titre que les autres disciplines sportives de glisse qui, elles, à l'origine, n'en sont pas une. Peut-être est-il préférable de parler d'une chorégraphie périlleuse, mi-improvisée, mi-imposée, qui se joue entre l'homme et la vague. Deux questions, Frédéric Schifter. Quel est le statut de la volonté dans le surf, si par volonté, on entend ce qui transcende l'ordre du corps? Pascal Taranto, au début de cette semaine, expliquait que dans la boxe, la volonté se réalisait, au sens qui était à prendre au sens fort, c'est-à-dire que la volonté véritablement devenait corps. Qu'en est-il en ce qui concerne le surf? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que vous parlez de danse? Alors, la volonté, ça c'est aussi assez complexe. Bon, moi, j'ai toujours songé que, quel que soit l'effort physique que l'on fait, la volonté n'est jamais que ce que vous permet encore le corps et qui se transmet à votre pensée. C'est-à-dire que quand vous dites, par un effort de volonté, allez, j'ai donné un dernier coup, là, bon, en réalité, c'est parce que vous le pouviez, que vous l'avez voulu. Bon. Bien dans le surf, je pense qu'il se passe exactement la même chose. Alors après, si on veut dire de la volonté, c'est-à-dire...
Mais c'est une volonté qui se suicide. C'est une volonté qui s'en prend à elle-même. C'est-à-dire, il s'agit d'abjurer la volonté ici. Il s'agit de se laisser aller, non?
Ah non, c'est-à-dire, alors, bon, moi je parlais d'abord de la volonté qui consiste à imprimer au corps un effort. Mmh. Très bien. Et ensuite, il y a la volonté qui consiste à imprimer au corps des mouvements précis. Selon, justement, et là j'en arrive à la danse, si vous voulez, donc effectuer des figures. Et là, la volonté compose, comme tout le temps d'ailleurs. La volonté est toujours obligée de composer avec les circonstances. Donc, entre ce que je compte faire, ce que je compte imprimer comme mouvement sur la vague, et ce qu'il en est en réalité, il y a un écart, et parfois il n'y en a pas du tout. Parfois ça coïncide. Et là, c'est la jubilation, quand la volonté, ou le désir, j'en sais rien comment formuler ça, mais quand le désir coïncide avec le résultat, alors effectivement, il s'ensuit un moment de jubilation. Et pourquoi vous parliez de chorégraphie ou de danse? Eh bien, parce que il me semble, quant à moi, que le surf s'apparente à ce qu'il y a aussi dans la danse, c'est-à-dire la grâce. Or, qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est faire comme si le corps n'obéissait plus aux lois de la matière, aux lois de la pesanteur notamment, et lui imprimer une sorte de légèreté qui donne l'illusion que peut-être le corps n'appartient pas à la matérialité, mais bien sûr, il n'y a que le corps pour faire croire à une telle illusion.
Mais l'accession justement à cet état second, de la même façon qu'on ne passe que par le corps pour y parvenir, l'accession à cet état second, cet état de grâce qui semble défier les lois de la nature, passe quand même, dans un premier temps, par l'acceptation résolue, encore une fois, humble, justement, des lois de la nature. C'est-à-dire que le miracle n'est possible qu'à la condition de bien comprendre qu'il n'y a pas de miracle et qu'on ne déroge pas aux lois de la nature, ce que le surf enseigne.
Voilà. C'est pour ça que c'est un art, hein. C'est pour ça que c'est un art au sens, non pas au sens de la technique, cette fois au sens artistique du mot, c'est-à-dire qu'il y a toujours une illusion, c'est donner, peut-être à soi-même mais aussi à ceux qui regardent, le sentiment, enfin l'illusion, l'impression que, au fond, on s'est bien joué des lois de la nature, on s'en est bien libéré, émancipé, alors qu'en réalité, on y a parfaitement obéi pour donner justement cette impression-là. Oui, c'est ce que je suis tout à fait d'accord avec vous.
On reste chez Héraclite. Hein. Héraclite disait « on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau », désignant par là même le fait que tout était en devenir et qu'en somme, le fait que ce soit le même fleuve, l'identité du fleuve, avait beaucoup moins d'importance que l'affluence du fleuve lui-même, qui faisait qu'à chaque fois qu'on se baignait au même endroit dans le même fleuve, ça n'était pas dans la même eau qu'on se baignait. On peut dire la même chose du surf, puisqu'après tout, les vagues, rien n'est plus répétitif que le ressac de l'océan. Et pourtant, vous dites, chaque vague se présente comme un moment dramatique à vivre, unique. Nul ne surfe jamais deux fois la même vague.
Oui, je me suis permis de paraphraser Héraclite, car c'est vrai. C'est toujours cette dialectique un peu entre l'identité et l'altérité, entre l'immobilité et la mobilité. C'est-à-dire que, oui, au même endroit coule le même fleuve, mais son eau est tumultueuse et changeante. Il en va de même, bien entendu, pour la houle. Comme je disais tout à l'heure, dans une série, même à l'intérieur d'une série de vagues, les vagues ne sont pas totalement identiques. À chaque fois, nous faisons l'expérience de la singularité. Or, il n'y a pas de singularité sans flux. Il n'y a pas de singularité sans changement, sans écoulement, enfin, et sans devenir. Mais là encore, peut-être que le défi du surfeur, c'est de vouloir imprimer, alors peut-être à son propre corps, peut-être une certaine discipline telle qu'elle relève ce défi du flux. Et alors, non pas pour immobiliser quoi que ce soit, mais pour essayer peut-être d'imprimer au mouvement des vagues d'abord, c'est à lui à rester stable, si vous voulez. C'est à lui à imprimer à son propre corps un certain équilibre là où tout bouge.
Il n'est stable que s'il épouse le mouvement.
inestable que s'il épouse le mouvement, mais en même temps, c'est toujours pareil. Il suggère une certaine stabilité. Ça, on le voit surtout avec la discipline du longboard. Enfin, longboard, c'est du surf qui se pratique sur de longues planches qui peuvent atteindre plus de 3 mètres. Et là, le surfeur exécute des petites figures chorégraphiques. Il marche en avant, en arrière, sur sa planche, etc. Et du coup, on oublie même la vague. On ne constate plus que le mouvement du surfeur. La vague fait partie du décor, la mer fait partie du décor. On assiste, si vous voulez, l'œil du spectateur se concentre, se focalise sur le surfeur lui-même. Et ça, c'est extraordinaire comme spectacle, parce que c'est vraiment paradoxal, alors qu'en fait, tout est en mouvement, tout bouge. Et d'ailleurs, il suffirait que le surfeur rate l'une de ses figures, qu'il tombe, etc., pour qu'on se rende compte. Là, on aurait le comique bergsonien dont vous parliez tout à l'heure. Et là, on verrait effectivement que là, la réalité se rappellerait à notre bon souvenir. Ouais.
Une heure passée à surfer, dites-vous, est une heure de vie concentrée en un ici et un maintenant, hors de tout souci du passé et du futur. Euphorie que le fugitif passage dans un tube donne à éprouver sur le mode fulgurant de la jouissance. Frédéric Schifter, c'est dans la tragédie du surf, hein, il y a la règle des 3 unités, hein, unité de temps, de lieu et d'action. C'est la même affaire ici, on est dans un ici et un maintenant, dans un instant qui n'est saisissable qu'à condition de le saisir selon la modalité du devenir, c'est-à-dire du mouvement, c'est-à-dire de la mobilité. En somme, ce que vous écrivez du surf concentre tout ce qu'on peut dire du présent, qui est perpétuellement mobile et qui en même temps ne se donne à penser que sur le mode d'un instant précisément insaisissable.
Exactement. Exactement. Et je crois que, alors ceux qui ont, enfin les grands surfeurs, je pense à Jerry Lopez par exemple, qui est le dompteur de Pipeline, la fameuse vague mythique d'Hawaï, lui dit qu'il ne s'est jamais senti autant en sécurité qu'à l'intérieur du tube. Alors quand on voit le tube en question, il s'agit d'une vague qui doit faire à peu près 8 mètres de haut, qui est creuse, et quand vous voyez le surfeur Jerry Lopez disparaître dans le tube, tout à coup, il disparaît. Il disparaît derrière un écran de d'eau, enfin, un monument. Et puis, à un moment donné, on le voit ressortir de ce espèce de gros tube. Alors, on se dit qu'il a dû trouver le temps long là-dessous, parce que vraiment, il est là dans le au cœur du danger. Eh bien non, pour lui, il est au cœur même de la sécurité. Il est dans l'instant le plus jouissif qui soit. Il n'a pas peur. Le temps s'est immobilisé. Alors que pourtant, il fonce. Hein, je vous garantis que là-dedans, on est propulsé. On est comme dans le canon d'un fusil ou d'un canon, justement, d'une grosse Bertha, si vous voulez. Mais le temps s'est aboli, la durée s'est abolie, le mouvement s'est aboli. Quelque chose s'est fixé. Et ce n'est qu'en ressortant du tube que les lois de la durée, si j'ose dire, en tout cas les impressions, les sensations de la durée reprennent leurs droits. Et effectivement, le surf donne toujours des expériences paradoxales de ce genre.
Spinoza parle d'une expérience de l'éternité.
Exactement.
Vous adhérez à ça?
Je pense que Jerry Lopez serait un spinoziste, oui.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer.
Un grand merci Frédéric Schifter. Avec vous s'achève cette semaine sur la philosophie du sport. Vous-même enseignez la philosophie au lycée Canto d'Anglette, sur la côte basque évidemment. Et c'est de philosophie du surf que nous venons de parler à l'occasion de votre livre paru en 2005 chez Milan dans la collection Pause Philo.
Avec les anges, c'est pur, la mer.
pour mémoire, dans cette semaine sur la philosophie du sport, lundi, les nouveaux chemins accueillis Denis Moreau et Pascal Taranto venus parler de boxe et de course à pied, mardi, Denis Grosdanovic est venu parler du tennis, mercredi, Igor Bogdanov est venu parler d'escalade, et hier, jeudi, Thierry Taon est venu parler de rugby.
Voyez ces oiseaux blancs.
Changement de décor la semaine prochaine, comme à chaque fois, dans les nouveaux chemins de la connaissance. Pour vous, chers auditeurs, de lundi à vendredi prochain, nous parlerons de Molière. Et lundi, c'est Georges Forestier qui ouvrira les débats et qui viendra parler du misanthrope. On parlera des femmes savantes, on parlera des fourberies de Scapin, on parlera du Tartuffe et on parlera évidemment du malade imaginaire.
À bercer mon cœur pour la vie.
Un grand merci également aux services techniques de France Bleu Pays Basque qui nous ont permis de réaliser ce duplex avec vous, Frédéric Schifter depuis Bayonne. À la technique, ici, c'était Bruno Gagnère. Là-bas, Renaud Ricard. Un merci également à Victor Hayette et Arnaud Labatte au choix des musiques. À la réalisation, Christine Diger. Assistant et collaboration, Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Jennifer Murzo, Igor Kortolitsa. Après le surf sur France Culture et à 17h50, on retrouve Albert Jacquard.